fin du monde approche.
Mario Dumont.
Mais au-delà de ça, Mario, c'est le retour du schtroumpf grognon, là.
Mario, mon petit.
Il était pas de bonne humeur, pis ça allait pas comme il voulait.
La rencontre, mon petit Dumont.
Bonjour, Marie. Tu veux me parler de ce reportage, et c'est le deuxième en quelques mois, là, d'une école secondaire, une école française, où c'est, on fonctionne en français, une école francophone, mais où des enseignants et des jeunes constatent que dans les corridors, au dîner, un peu partout dans les lieux communs, ça parle anglais en masse.
Ben, je veux surtout te parler de la réaction qu'ont eu deux ministres du gouvernement de la CAQ par rapport à ce reportage-là, dont notamment Jean-François Roberge, ministre responsable de la langue française, et Bernard Drinville, ministre responsable de l'éducation, qui ont pointé du doigt les demandeurs d'asile pour la situation qui se passe à l'école secondaire, la cité des jeunes. Puis ça se met dans un contexte.
La probabilité, c'est qu'il n'y en a pas un seul, là.
Ben là, c'est un peu ça, là. C'est un peu ça mon réflexe. Puis là, je me disais, bon, OK, on va mettre le contexte. Il y a eu ce reportage-là ce matin. Après ça, dans la journée, il y a eu la ministre Fréchette, la ministre de l'Immigration, entre autres, qui a annoncé qu'elle donnait 5 millions à des organismes communautaires pour aider à l'accueil des demandeurs d'asile. Puis là, ils ont rayé leur demande auprès du gouvernement fédéral. Donc, tu sais, c'était dans l'air, là, la question des demandeurs d'asile. Puis là, Bernard Drinville, il se retourne, puis il dit, ah, ben, il y a trop de demandeurs d'asile. Donc, c'est pour ça que les jeunes parlent en anglais à la cité. Puis je me disais, il y a combien de demandeurs d'asile à Vaudreuil-Dorion qui provoquent cette situation-là chez les jeunes au secondaire?
À mon avis, ça doit être proche du zéro. Là.
Ben, c'est un peu mon impression aussi, Mario. T'sais. Puis je me disais, c'est pas plus Netflix, c'est pas plus les jeux vidéo, c'est pas plus la musique, c'est pas plus YouTube, c'est pas plus TikTok, Instagram, je sais pas, le contenu culturel. En tout cas, il me semble que j'aurais une couple d'éléments à pointer du doigt avant d'aller pointer les demandeurs d'asile. Puis je trouvais que il y a quelque part où c'est un peu irresponsable comme ministre de faire. C'est un raccourci, je peux pas l'appeler autrement, puis c'est un raccourci qui semble reposer sur pas grand-chose, et ton intuition, je la partage aussi, à savoir que ça doit pas être la principale région, Vaudreuil-Soulanges, Vaudreuil-Dorion, où il y a un accueil si massif de demandeurs d'asile qu'on est passé en quelques mois d'école secondaire où ça parlait français en anglais, tu sais. Puis je veux pas minimiser l'enjeu de la présence de l'anglicisation dans les corridors, mais tu sais, mon propos, il était vraiment pas là-dessus, mais je trouve
non,
que comme
mais
élu,
on peut pas, je veux dire, les demandeurs d'asile en nombre démesuré cause des ennuis, mais on peut pas, dès qu'il y a un problème, dire demandeur d'asile non plus comme réponse à tout, là, comme excuse à tout.
Ben, c'est l'enjeu, tu sais, c'est le risque qu'on a dans ce débat-là à chaque fois quand il y a quelques, puis il y a plusieurs ministres qui ont tendance à glisser, hein, quand il y a question de la crise du logement, ah, ben là, c'est à cause des immigrants, tu sais. Là, la France, l'anglicisation, ah, ben là, c'est les demandeurs d'asile, tu sais. Puis là, on va aller faire, tu sais, quand on avait parlé justement de la volonté de François Legault d'aller faire un débat sur la question du référendum sur les pouvoirs en immigration, le risque qui est là, c'est la pente glissante que finalement tous nos mots, sûrement aussi que la question du transport collectif, ça doit être leur fond. Tu sais, puis là, c'est pour ça que je me dis, il me semble que comme membre d'un gouvernement, comme membre d'un conseil des ministres, t'as une responsabilité d'être tout le temps très factuel aussi, puis t'assurer que le débat prenne la bonne direction aussi. Et c'est un enjeu, la question de l'anglicisation chez les adolescents, mais pointe le bon problème, tu sais.
Ouais. Marie, tu veux me parler aussi d'Éric Lefebvre? D'abord, les conservateurs ont fait un rassemblement hier dans la circonscription de Richmond-Arthabaskan, le futur comté d'Éric Lefebvre qui a quitté la CAQ, le whip de la CAQ qui a quitté la semaine passée pour aller se présenter avec les conservateurs. Et là, c'est Yves-François Blanchet qui a repris le collier et qui, je vais reprendre les mots, là, immoral et malhonnête. Là. C'est comme ça que nomme la décision d'Éric Lefebvre de rester député, de garder son siège, donc de garder son salaire de député à Québec. Tout en annonçant qu'il s'en va faire campagne à Ottawa.
Écoute, je sais pas si c'est parce qu'on est lundi, Mario, puis il y a des élus qui ont profité du week-end pour pas faire d'intervention, puis aujourd'hui se sentaient en verve. Là, on est un petit peu dans la même lignée que je te disais que Bernard Drinville et Jean-François Robert ont un peu échappé aujourd'hui en pointant pas le bon problème du doigt. Là, écoute, il est pas allé de demi-mot, là, Yves-François Blanchet, en disant que c'est immoral et malhonnête.
T'sais, mais il est pas un peu tôt. Il est pas un peu. Moi, je trouve que, tu sais, dans le fond. On le sait pas encore. Lui, il a dit, moi, je veux continuer à représenter les électeurs d'Arthabasca. Mais moi, il me semble, moi, il faut que je me donne, mettons, jusqu'au mois de juin, jusqu'à la fin de la session. Là, je vais aller voir est-ce qu'il a voté à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il s'est présenté, est-ce qu'il était là, est-ce qu'il a du service à son bureau de comté, est-ce qu'il s'occupe de son affaire. Si on me dit, il fait campagne à temps plein à Ottawa, on le voit plus avec son bureau de comté, c'est des employés, lui, il est plus jamais là, puis il est plus jamais au Parlement à Québec. Là, peut-être, je vais me ranger du côté de ceux qui disent, hey, il prend la paye, puis il fait plus la job. Mais aujourd'hui, je me sens pas, moi, en mesure de trancher, tu sais.
Ben, il y a une personne qui a tranché dans une situation similaire, puis tu auras remarqué qu'il n'y a pas de députés de l'opposition à l'heure actuelle qui ont demandé à la commissaire à l'éthique de se saisir de ce dossier-là. Peut-être qu'il est un peu tôt, peut-être qu'ils ont pas eu le temps de le faire, mais la commissaire à l'éthique s'est déjà penchée sur un dossier similaire qui était pire, qui était celui de Martine Ouellet, oui, qui n'était pas ça, juste c'est... candidate. Chef du Bloc québécois à Ottawa, elle avait deux mandats, deux chapeaux, deux payes. Et la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale s'était penchée sur la question à l'époque en disant, ben écoutez, il y a éthiquement, il n'y a pas d'enjeu. Si elle est capable de faire la démonstration qu'elle répond à ses responsabilités, ça va. Donc, je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été fait. Donc, je trouvais que Yves-François Blanchet, qui est-il pour aller dire que c'est immoral? Une fois qu'on a dit ça, tu sais, Éric Lefebvre, il n'a pas besoin d'être à Ottawa pour faire campagne. Il va faire campagne dans sa circonscription. Donc, moi, je suis quand même curieuse.
Donc, mais c'est-à-dire que quand il va faire ses niaiseux, mais le travail normal, mettons, de fin de semaine de député, là, tu sais, tu vas samedi après-midi, il y a une exposition de quelque chose, samedi soir, il y a un souper de l'âge d'or. Là, tu fais 4-5 activités, mais je veux dire, tu y vas, tu serres des mains, tu salues les gens, tu le fais à la fois comme député québécois et comme candidat conservateur. Ça se sépare pas. Tu peux pas dire dans lequel des deux rôles, tu sais, c'est... Tu sais, écoute, tu rencontres des gens, tu serres des mains, ils sont contents de te voir. C'est le même rôle.
Mais si ça se trouve, c'est ça. Il y a une partie de son travail où, si ça se trouve, il va être encore plus présent, il va être encore plus sur le terrain. Parce que là, il est en campagne électorale. Donc, il faut qu'il en serre des mains, il faut qu'il rencontre des gens. Puis là, il n'y a plus la plage horaire de 2 ans et demi, 3 ans comme il l'avait au provincial. Là, il est dans une fenêtre plus courte. Donc, il va peut-être être encore plus motivé. Il risque de moins voir sa mère. Hein. Éric Lefebvre, là, c'est celui qui avait demandé... qui avait justifié son 30% d'augmentation de salaire parce qu'il voyait pas sa maman. Donc là, ça se peut qu'il soit encore plus présent sur le terrain. Mais ça se peut qu'il y ait une partie du travail aussi. Tu sais, je veux dire, ton cerveau, là, à un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux le diviser. Là. Lui, il va être focus sur gagner sa campagne électorale. Donc, est-ce qu'il va continuer de faire des représentations pour ses écoles primaires qui ont besoin d'agrandissement, pour ses PME qui ont besoin d'être soutenus auprès du ministre de l'Économie? Est-ce que ses énergies, il va continuer de les mettre là-dessus ou il va les mettre sur une campagne fédérale? Puis c'est ça qu'il faut surveiller. Et là, qui va surveiller ça étroitement? Je ne suis pas sûr que la commissaire à l'éthique va faire ça quotidiennement.
Non, puis je le sais que les dossiers, mettons, tu parles de rénovation d'école ou d'autres dossiers, doivent être évalués au mérite. Mais tu sais, des fois, quelqu'un d'influent, genre quand t'es l'whip du gouvernement, que tu rends des services, t'as des petits bonbons, des petits candidats à donner à gauche puis à droite, ça peut te donner un petit pouvoir pour faire devancer ton dossier ou un dossier que tu veux absolument... Là, il a perdu... Les gens d'Arthabasca, là, je sais pas si... Ils ont perdu ce pouvoir-là, là, tu sais, de quelqu'un qui siège au Conseil des ministres. Fait que je pense pas que les gens ressortent gagnants. Mais de là à dire qu'il ne fait plus son travail du tout... Moi, je me laisse du temps pour juger. Ça sera peut-être ma position rendue à la fin de la session. Si on ne le revoit plus une journée à l'Assemblée nationale puis qu'il est absent de tous les votes d'ici la mi-juin, là, peut-être que je vais revenir au même micro ici puis je vais dire, ouais, là, les gens d'Arthabasca, il n'y a plus de députés, il y a la paye, mais il ne fait plus la job. Mais à cette date-ci, je trouve qu'il est un peu tôt pour trancher. Là.
Ouais. Il y aura un enjeu au niveau de son assiduité de toute façon, parce que tu sais, dans le code de déontologie de l'Assemblée nationale, puis ça,
c'est vrai maintenant.
C'est très surveillé à l'Assemblée. Oui, oui, c'est très surveillé. Puis à chaque fois qu'il y a eu des députés, justement, qui ont été exclus comme ça d'un caucus ou qui sont devenus indépendants par choix, pas par choix, il y a un suivi qui est fait tout de suite par la commissaire en demandant, tu sais, vous avez l'intention de comment vous allez fonctionner. Vous vous rappelez que vous avez, ou un député qui est malade, par exemple, ou comme ça s'est passé avec Harold Lebel, entre autres, qui avait des poursuites contre lui. Il y a toute cette question-là de, il y a une responsabilité d'assiduité. Donc, comment vas-tu faire ton assiduité? Est-ce que tu vas être présent en chambre? Est-ce que tu vas être présent dans les votes? Est-ce que tu vas déposer des motions? Donc, ça va être surveillé, c'est certain. Et là, il a tout intérêt, effectivement, à faire patte blanche là-dessus parce que ça va lui nuire. Tu sais, c'est les mêmes citoyens là, qui vont voter pour lui au fédéral.
Un blâme de la commissaire à l'éthique, c'est pas la bonne façon. C'est pas le bon coup de départ, le bon coup d'envoi pour une campagne. Non, c'est ça. Merci, Marie. À demain.
Bye, Mario.